Pierre Ducrozet est un auteur qui est en résidence à Manosque.
Et c'est avec grand plaisir que je l'accueille. Bonjour Pierre Ducrozet.
Bonjour.
Avec la sortie de ce livre Héroïka, un roman que vous avez sorti en 2015, il y a déjà quelques temps, dont on va parler bien sûr, avec aussi votre résidence à Manosque, dont on va parler, et pas uniquement à Manosque, puisqu'il y a plusieurs communes de DLVA qui vont être visitées par votre plume, en quelque sorte. Et puis la première question que je vais vous poser, Pierre Ducrozet, comment êtes-vous venu à l'écriture ?
J'ai toujours baigné dedans, d'une certaine manière, j'ai toujours voulu faire ça. Et petit à petit, ça s'est précisé. J'y suis venu grâce aux livres que j'ai lus et que j'ai aimés et qui m'ont poussé à prendre la plume moi aussi. Et ensuite, ce qui a été décisif, c'était de partir en voyage longtemps, à l'âge de 20 ans. Et ça m'a marqué et ça m'a aussi donné de la matière et du grain à moudre.
Alors, quelques noms peut-être d'écrivains et puis quelques pays aussi, tant qu'on y est.
Oui, alors les écrivains fondateurs ont été Céline et Sandrard et ensuite dans la lignée des Américains comme Kerouac, Henry Miller, Faulkner. Et comme pays, ça a été l'Amérique du Sud, ça a été l'Océanie, l'Asie du Sud-Est. Et depuis, c'est beaucoup l'Amérique et l'Asie qui sont les deux pôles.
L'Amérique du Nord et New York. New York où se passe l'essentiel d'Héroïka. On suit dans votre roman un artiste majeur du XXe siècle qui est Jean-Michel Basquiat. Au départ, un graffeur, c'est comme ça que l'on dit. Il dessinait sur les murs de New York. Il a lancé avec plusieurs de ses amis cette mode particulière d'expression. Et puis après, un peintre plus classique, entre guillemets, parce que si on peut parler de classicisme pour Jean-Michel Basquiat, qui est décédé à l'âge de 27 ans, un âge mythique dans l'univers de cet underground new-yorkais, la mort d'Hendrix, la mort de Janis Joplin, de Jim Morrison, etc., et Jean-Michel Basquiat. Qu'est-ce qui vous a fasciné chez ce peintre particulier, Pierre ?
Ce qui me fascine, c'est sa puissance. C'est quand il arrive donc sur la scène new-yorkaise en 81-82, il emporte tout sur son passage. Ses toiles sont d'une puissance folle, c'est-à-dire c'est plein de couleurs, de formes, d'énergie, de corps, de mots. C'est quelque chose qui rompt avec le minimalisme en vogue à l'époque, qui ramène un vent d'expressionnisme dans la peinture. Et donc ça, c'est sa peinture qui me fascine, comme elle fascine la plupart des gens. Et la personnalité de Basquiat aussi, qui est un feu follet, mais qui est complexe, qui est contradictoire, qui est touchant aussi. Donc j'avais envie de passer ce moment avec lui. Et d'ailleurs, il ne me quitte plus vraiment depuis. C'est un peu mon héros à moi.
On ne va pas vous demander ce qui est inventé et ce qui est réel dans votre livre. On va laisser ce mystère planer, ce n'est pas plus mal. Mais Jean-Michel Basquiat, c'est vrai que c'est un personnage étonnant, un peintre majeur et en même temps qui a croisé de grands personnages aussi, de grandes personnalités. Je pense à Andy Warhol, je pense à Madonna, je pense à Mapplethorpe. Enfin bref, toute cette mouvance de l'underground new-yorkais que vous dépeignez comme si vous y étiez, Pierre. Comment vous y êtes pris pour pénétrer dans l'usine ?
J'ai beaucoup... Alors, je connais New York, mais le New York d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le New York des années 80, qui est mort et disparu. Et donc, j'ai lu, j'ai regardé. Et puis après, c'est le travail du romancier, c'est de se laisser envahir par l'empathie. Donc après, c'est l'intuition. Et que dire ? Oui, il est, en fait, un personnage est jamais un personnage tout seul. Il faut une conjonction de choses. Donc là, il y a le fait qu'il est à New York. Donc, c'est l'épicentre de plein de choses et au niveau artistique bien sûr. Il est entouré des bonnes personnes et il rayonne là au milieu. Donc il y a Warhol qui va être son père spirituel, il y a Kissaring qui est son compagnon de jeu dans les rues de Manhattan, il y a Madonna avec qui il se lie, il y a tout ça, il y a tout un ensemble de gens qui au début le lancent vers la gloire et qui vont le freiner puisqu'il y a une succession de trahisons et le monde de l'art aussi est très dur pour lui. Il y a l'argent qui arrive en masse. On est au début des années 80. Le capitalisme envahit le monde de l'art. Donc tout ça va jouer dans son parcours et va influer sur lui.
Il a beaucoup produit également, il a beaucoup peint et pratiquement partout, sur des portes, sur des murs, sur des serviettes en papier, enfin tout ce qu'il trouvait lui servait de support d'expression. Ça aussi c'est important parce qu'après avec la gloire et avec la marchandisation évidemment, on s'est rendu compte que ben, il y avait beaucoup de gens qui pouvaient tirer profit de ces peintures de Basquiat.
Il invente non seulement une peinture, mais il invente aussi le cadre sur lequel travailler. Et donc, ce sont son assistant, enfin, ses multiples assistants, récoltent dans la rue des bouts de porte qu'ils montent ensemble. Et ça fait partie aussi de la force de ce qu'on appelle des toiles, mais c'est pas vraiment des toiles parce que la plupart sont pas sur des toiles. Et voilà, il a commencé dans la rue, mais ça a été très rapide. En fait, il n'a pas vraiment fait des graffitis au sens propre. Il écrivait des phrases sur les murs de Soho. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant là, c'est que ça commence par des mots, son œuvre, et elle finit aussi dans des mots. Il est aussi poète. Ses toiles sont parcourues de mots dans toutes les langues de New York, le français, l'espagnol, bien sûr, et l'anglais. Et c'est un artiste multiple qui est aussi musicien, qui est aussi poète, qui est aussi peintre, qui est tout ça à la fois.
On reparlera de cet aspect multifacette de l'artiste dans un instant, parce que vous allez ce soir animer une réunion, une rencontre à la médiathèque Lucien Jacques, qui était aussi un écrivain multifacette. Donc vous aurez l'occasion de connaître ce genre de personnage aussi particulier qu'on a ici même en Provence. Jean-Michel Basquiat, c'est aussi une enfance particulière, une enfance écartée entre New York et puis Porto Rico et Haïti. Et puis aussi, c'est un accident terrible. Il verra sa rate enlevée, mais c'est un moment fondateur chez Basquiat, puisque sa mère va lui offrir un ouvrage particulier qui le marquera à vie. Et il n'avait que 7 ans.
Voilà, il a 7 ans et au moment précisément où il comprend la fragilité de son corps, donc parce qu'il a un accident grave et donc voilà, comme vous l'avez dit, on lui enlève un organe. Et il découvre dans un livre, dans Grey's Anatomy, la beauté du corps humain, des ligaments, de toute cette architecture interne. Et ça va le hanter toute sa vie travailler toutes ses œuvres. Il y a le corps qui revient, le corps qui voudrait faire tenir ensemble, qui voudrait réunir son corps. Et donc il le fait dans la toile.
Et c'est un personnage, bien sûr, comme à cette période particulière, les années 80 à New York, qui va s'adonner à la drogue, mais à toutes les drogues possibles, imaginables de l'époque. Il en mourra d'ailleurs.
Oui, il en meurt. La drogue l'a aidé à cavaler, à aller vite, à trouver le rythme qu'il fallait. Et ensuite, elle devient son ennemi sur la fin de sa vie. Mais j'ai insisté aussi sur le début où elle est son alliée. C'est important aussi.
Avec des personnes comme, je l'ai dit tout à l'heure, Andy Warhol, où on a cette espèce de complicité quasi filiale avec Andy Warhol, l'albinos d'un côté et puis le nègre haïtien de l'autre côté, deux personnalités complètement différentes qui vont travailler ensemble, qui vont se produire ensemble dans certaines scènes. Mmh. Et d'ailleurs, il y a des portraits dans vos lignes, notamment de certains vernissages qui ne sont pas piqués des verres. Mais vous y étiez, Pierre.
Oui, j'étais partout. Ouais, c'est une amitié étonnante parce qu'elle était très mal partie, a priori, parce que ça part sur des mauvaises bases. Andy Warhol veut le sang frais de Basquiat et Basquiat veut la gloire de Warhol. Donc c'est mal parti, mais c'est très beau. Il y a quelque chose de vraiment fort. C'est les dernières années de la vie de Warhol qui se régénère au contact de Basquiat, et Basquiat trouve là son maître, qui était déjà son maître. Et voilà, ils arpentent la ville de New York, ils vont à des fêtes, et ils travaillent ensemble aussi, et il y a une belle complicité qui finit en 1987 avec la mort de Warhol.
Avec des phrases particulières, avec des moments terribles où Basquiat a envie de vendre, puis là, tout d'un coup, là, il n'a plus envie. Ou alors, il se désintéresse complètement du côté marchand de son métier. Et puis d'autres fois, il va s'agripper à ses toiles en disant ben non, certaines personnes ne méritent pas ma peinture. C'est une forte personnalité. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Jean-Michel Basquiat ?
Il reste énormément. Il est l'artiste dont les toiles se vendent le plus cher, et il reste une figure centrale de la fin du XXe siècle. Et ces toiles, qui étaient déjà à l'époque reconnues comme, voilà, comme quelque chose d'essentiel, gagnent encore en puissance, je crois. J'en vois régulièrement, j'essaie de me déplacer, continuer à me déplacer pour les voir. Et ça vous cloue physiquement et intellectuellement aussi, puisque c'est très complexe, c'est très élaboré, ça semble très direct comme ça, mais c'est d'une grande complexité. Il a compris toute l'histoire de l'art et il l'a réuni. C'est un grand geste.
Pour faire simple, on pourrait dire qu'on a l'air d'être en face d'un tableau qui est du n'importe quoi, et en fait, pas du tout. C'est très bien construit, c'est très bien harmonisé au niveau des couleurs, au niveau des formes, parfois avec des mots qui donne encore plus de poids à la peinture, et c'est quelque chose d'assez particulier. Votre roman s'appelle Héroïka parce que c'est un clin d'œil évidemment à une toile de Basquiat qui elle-même est un clin d'œil à une symphonie de Beethoven.
Qui est pas mal aussi.
Ah oui, hein,
Qu'il écoutait en boucle chez lui, il écoutait de l'électro, du hip-hop, et il écoutait beaucoup de musique classique aussi, le boléro de Ravel en boucle et Beethoven. Donc qui donne le sujet au livre. C'est un livre sur l'héroïsme.
On va parler de votre style maintenant, Pierre. Un style qui est parallèle en fait au style de peinture de Basquiat, c'est-à-dire des phrases parfois très courtes, un petit peu comme les fulgurances picturales de Basquiat. Des phrases qui sont très percutantes. Des fois même, ce sont même pas des phrases, c'est un mot ou un groupe de mots. Et il y a une accumulation comme ça d'images, tout à fait comme les tableaux de Basquiat. C'est votre manière d'écrire régulière, naturelle ?
Oui, c'est un peu ma pente naturelle. Ensuite, il fallait que je me laisse envahir par la peinture de Basquiat et que j'aille à son rythme. Et donc voilà, je voulais éventuellement cette puissance-là. Donc il fallait aussi des ruptures de ton, comme il fait dans ses toiles. Il fallait qu'on cavale et puis qu'on ralentisse. Ce qui m'intéresse dans un roman, avant tout, c'est son rythme.
Alors justement, je vais essayer de lire, vous savez, je ne suis pas un grand lecteur, mais bon, je vais essayer de vous donner, chers amis auditeurs, l'impression que l'on a quand on lit Pierre Ducrozet qui parle de Basquiat et qui parle de ce moment particulier et de cette action boulimique qu'avait Basquiat de peindre. C'est un extrait de votre roman Héroïka, c'est l'extrait du chapitre, des chapitres qui sont très bien nommés, et celui-là s'appelle « Le creux ». Il s'agit de peindre plus de tableaux que Picasso, de faire de meilleurs croquis que Léonard de Vinci, de baiser plus de filles que Mick Jagger, ça va être compliqué mais il faut être confiant, de sniffer plus de coke que Bowie en 1974 devant son saladier auto-alimenté par un réacteur ou est-ce un groom, de battre Matisse en couleur et en grâce, de battre Bacon en torsion et en horreur, de battre Twombly en foutoir, d'être plus rock que Lou Reed, d'être plus célèbre que John Lennon, d'être plus cool de Steve McQueen, de battre ce pauvre Van Gogh en vertige, son plan c'est ça. Il dessine sur le bâton de droite une immense tête braillarde, la bouche béante édentée, les yeux affolés. L'important est de faire tout cela avec le plus grand calme possible, comme si de rien n'était, de ce pas impassible et langoureux qu'on lui connaît d'une rive à l'autre de Manhattan. Ça, c'est le style du Crozet. C'est-à-dire qu'on dépeint un artiste dans son acte le plus intime, celui de la création, et en fait, tout ce qu'il pense, donc, de vouloir ressembler à Lou Reed, à Mick Jagger, à Léonard de Vinci, c'est cette galerie de personnages qui l'incite à peindre.
Oui, alors il a une galaxie comme ça de héros, notamment noirs, enfin en tout cas tous qui sont autour de lui et qui lui donnent sa force. Moi, ce qui m'intéresse là dans ce moment-là, c'est à la fois son extrême ambition, on voit bien, il veut être numéro un en tout, et cette presque naïveté d'enfant, c'est-à-dire il veut les battre, il veut être meilleur, il veut
avoir plus de filles que Mick Jagger.
Voilà, et plus de tableaux que Picasso, il va y arriver. Il y a un côté, il y a tout ça chez lui, il est contradictoire, il est d'une extrême ambition, il sait très bien ce qu'il fait, en même temps c'est un gamin. Et c'est ça qui est beau, quoi. Et donc sa fragilité, son extrême sensibilité, tout est à la fois une force et une faiblesse. Donc il y a un vrai personnage de roman, déjà en tant que tel, il suffisait de me laisser emporter par lui.
Et c'est fait de manière merveilleuse par Pierre Ducrozet, Héroïka. Je signale que c'est paru aux éditions Grasset. Et évidemment, vous discutez régulièrement dans le cadre des correspondances d'Héroïka. Vous êtes ce soir, Pierre, à à Gréoux-les-Bains.
Exactement, oui.
À la médiathèque Lucien Jacques.
À 18h30, c'est
ça. Donc vous verrez les œuvres de Lucien aussi dans ce cadre-là. Ça n'a rien à voir avec un graffeur new-yorkais, mais c'est pas mal aussi. Mm-hmm. C'est un personnage. Comment vous avez abordé, vous, cette période particulière qui est une résidence à Manosque?
Très bien, c'est un moment parfait pour se plonger dans un prochain projet. Donc là, j'ai un projet de roman depuis un moment déjà. Donc, silence, calme, et en même temps ponctué de rencontres publiques, d'ateliers à l'école internationale de Manosque. Voilà, en mars, je vais aussi inaugurer je vais présenter un film, deux films autour de Basquiat à Manosque et à Digne. Plein de choses différentes, une rencontre à Fort-Calquier. Donc, je me balade dans le pays qui est très beau, que je connais déjà, mais que je redécouvre. Et je m'immerge dans mon prochain projet. C'est-à-dire que je viens qu'avec ce livre et je ne fais que ça. Donc oui, moi, c'est un moment que j'apprécie énormément.
C'est une belle parenthèse dans votre vie.
Voilà, c'est ça. Ouais. Je m'éloigne du fracas des grandes villes et puis je viens me recueillir à Manosque.
Merci Pierre d'avoir été notre invité. Et puis on se reverra certainement et vous allez participer probablement aux rencontres et aux émissions de nos amis, des lecteurs sous les toits qui viennent faire des émissions, le comité de lecture, la médiathèque d'Herbès et les correspondances. Mm-hmm. Merci, à très bientôt.
Merci
bonne soirée à Gréoux-les-Bains ce soir à Lucien Jacques.